Bonjour et bienvenue pour ce quatrième numéro de C'est dans la boîte. Nous fêtons aujourd'hui les retrouvailles de notre petite équipe après un certain temps passé sans faire d'émission. Mais là, on est tous bien repartis. Donc aujourd'hui au programme, deux films dont l'un est déjà sorti il y a un petit bout de temps, le film de Kore-eda, Tel père, tel fils. Et un film qui vient de sortir par contre cette semaine, 12 Years a Slave, donc le troisième film de Steve McQueen, qu'on a été voir ensemble avec Ferdinand et Tamara.
Dans la boîte.
On commence du coup par le Kore-eda, je pense. Donc, a priori, c'est Pauline et moi qui l'avons vu. Pauline, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Oui, donc Tel père, tel fils, comme tu disais, donc un film de Kore-eda, donc un film japonais. Alors, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et c'est un film que j'ai particulièrement aimé parce que finalement, il arrive à allier réflexion, disons, culturelle, avec toute une présentation d'une société quand même japonaise très particulière et assez clivée entre d'un côté une famille très à cheval finalement sur les codes, les traditions et en même temps la réussite, la performance, et de l'autre une famille un peu plus bohème, un peu plus légère.
Il y a aussi une différence sociale quand même.
Et également, avec toute la réflexion et la critique sociale, et également la présentation d'un drame familial et personnel.
On peut peut-être rappeler en deux mots l'histoire, parce qu'en fait, c'est plus ou moins inspiré.
Alors, La vie est un long fleuve tranquille, donc qui est une comédie française, et qui surtout, est assez aigre-douce. Certes, c'est drôle, mais en même temps, on rigole parfois jaune.
C'est quand même une comédie, parce que là,
une comédie. Voilà.
Il a retenu surtout l'aspect dramatique.
L'aspect dramatique
cet échange tragique entre deux familles, dont on se rend compte au bout de quelques années, quand ils ont,
six ans, parce qu'ils vont rentrer à l'école primaire.
Oui, c'est ça.
Ils vont rentrer à l'école primaire, et ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont aussi gardé, pas simplement l'échange de bébés, et puis le fait qu'on se rende compte et qu'on voit ensuite comment les familles peuvent s'arranger, mais le fait qu'à la base, c'est la sage-femme, enfin une sage-femme ou une infirmière en tout cas de la maternité, qui décide d'échanger des bébés par frustration. Dans La vie est un long fleuve tranquille.
Frustration un peu idéologique aussi, quand même.
La vie est un long fleuve tranquille, du coup, c'est une frustration de l'infirmière sage-femme qui n'est pas contente de la relation adultère qu'elle mène avec le médecin du service, et qui décide de se venger sur des familles qui sont en plus amies de cet homme marié qu'elle fréquente. Oui. Tandis que dans le film japonais, c'est plutôt la frustration sociale qui est parfaitement explicite.
En voyant la famille qui des deux est socialement la plus aisée, elle décide que l'enfant venant de l'autre famille a le droit lui aussi à une vie plus facile, entre guillemets.
Alors moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai pas compris ça personnellement. J'ai compris que trouvait que cette femme, donc une des deux familles, donc avait tout, c'est-à-dire argent, famille présente.
Famille présente, je suis pas sûre.
Parce que la femme, elle explique qu'elle avait accouché, elle a accouché dans ce petit hôpital parce que ses proches étaient près d'elle. Et donc l'infirme,
son mari n'était pas là.
Et que son mari était absent. Et ce qu'elle ne manque pas d'ailleurs de lui rappeler. Quand il lui dit je savais que on n'aurait pas dû aller dans ce petit hôpital de province et elle lui dit oui, mais en même temps c'est parce que c'était près de ma famille et qu'au moins ma famille elle était présente lors de mon accouchement, et parce qu'elle, cette femme également, il se trouve qu'elle a été elle a accouché dans des conditions extrêmement difficiles, et ça rajoute au drame. Elle a beau être dans un milieu social favorisé, elle est devenue en fait stérile par la suite, hein.
Mais ça, c'est une dimension aussi intéressante, le côté aisé, parce que finalement c'est pas si noir et blanc. D'un côté la famille plus populaire et de l'autre côté la famille plus aisée, parce qu'en réalité on se rend compte au bout d'un moment que quand même le père en particulier ne vient pas lui-même d'une famille très bourgeoise, que c'est plutôt une question d'ascension sociale en fait, et que donc justement son extrême attachement au code, un peu au côté justement de la réussite de son enfant, c'est peut-être une surcorrection par rapport aussi à un milieu auquel il appartient plus ou moins maintenant, mais dont il ne vient pas au départ.
Oui, tout à fait. Il y a le phénomène de l'ascension sociale qu'il veut préserver, faire en sorte que son fils, enfin, ait le mieux pour faire mieux que lui, comme lui a fait mieux que ses propres parents et notamment son propre père. En fait, tout ce film est une réflexion, je pense, moins sur la famille ou l'échange d'enfants en soi que sur la question de la filiation et notamment de la paternité, même plus précisément, même s'il y a l'importance des mères, parce que
finalement, déjà, le film est quand même beaucoup concentré sur le point de vue du
bah,
père.
Tel père, tel fils, même si, bien sûr.
Oui, mais enfin, je veux dire, on voit dans les deux familles, les deux parents quand même, enfin, les quatre parents donc au total, on les voit tous un peu, mais c'est quand même
surtout le père. On voit bien
que
c'est la relation au père qui est...
De la famille la plus aisée qui...
Oui, c'est plus sur lui que c'est centré, tout à fait. Et même son propre père, du coup, on le voit et on voit combien sa relation avec son propre père à lui est difficile et comment il a du mal également à accepter le mode d'être de l'autre père. Il y a...
Oui, bien sûr. Bah, la scène, ne serait-ce que la scène où il propose d'acheter l'autre enfant, en quelque sorte.
Qui n'est pas très...
Le côté le plus extrême.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est un beau film. Moi, il m'a vraiment plu. Enfin, il y a un moment, je me suis demandé vraiment s'ils n'allaient pas...
garder le...
Enfin, faire vraiment l'échange d'enfants. Parce qu'il y a quand même il y a ce moment où ils décident d'échanger effectivement les enfants, reprendre leurs enfants.
Ce qui est une volte-face quand même du père, parce qu'au début, c'était pas du tout son état d'esprit.
Voilà.
Et puis finalement,
ils gardent chacun.
Non, alors.
À la fin, ils décident de s'arranger plutôt, de récupérer les enfants.
Pas vraiment, mais en tout cas, ils reviennent voir. En fait, le père, comme il est un peu extrême dans ses attitudes, décide que puisqu'ils ont échangé les enfants, maintenant il ne faut plus que les enfants voient leur ancienne famille, parce que sinon, voilà, ils sont à nouveau exposés à cet ancien milieu qu'il faut qu'ils oublient. D'accord. Parce que ne serait-ce qu'il y a toute cette réflexion aussi sur quand ils doivent commencer à appeler les autres parents, maman, papa, alors qu'ils n'ont pas l'habitude. Et que, voilà.
C'est effectivement sur l'identité du
coup. Oui, bien sûr. Du coup, tout ce côté voilà, où ils ne se voient plus du tout, et par contre, à la fin, finalement, bon, il y a un côté un peu mélodramatique où il voit des photos que l'enfant a pris de lui sur son appareil photo avant qu'il fasse l'échange et qu'il prenne l'autre enfant chez eux. Et donc, il est très ému et il décide finalement de retourner voir l'autre et de s'excuser. Donc, on suppose qu'après, ils vont reprendre des relations quand
mais
même
en
un
fait,
peu normales.
Oui, c'est vrai que la fin reste assez ouverte, mais on suppose qu'ils vont plutôt faire un mix, en fait.
C'est un peu étrange, je trouve, parce qu'à l'époque, quand même, des familles composées, recomposées, qu'ils n'aient pas pensé à faire quelque chose de ce style, chez l'un, une semaine chez l'autre. Enfin, moi,
c'est parce qu'en fait, la question est d'emblée clivée, en ce sens que c'est la fameuse question sur la filiation par le sang ou la filiation par l'éducation. Et donc, en fait, ils n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse avoir un fils qui ne soit pas soit de son sang, soit qu'on n'est pas élevé. Ils n'arrivent pas à se dire que la vie étant ce qu'elle est, la filiation et la paternité sont aujourd'hui des modes de comportement et d'existence complètement flous et potentiellement hybrides. Et en fait, à la base, l'idée, c'est de, il y a un problème, il faut le solutionner, mais surtout, c'est un dilemme qu'il faut trancher. Oui. C'est-à-dire, c'est soit l'un, soit l'autre.
Ils voient quand même bien les deux côtés du dilemme, parce qu'ils ne sont pas du tout cette idée que... voilà.
Bah, ils se
posent
la question.
Si c'est pas l'enfant de notre sang, c'est pas le nôtre.
Oui, mais du coup, d'emblée, en tout cas pour la famille socialement aisée, ils n'arrivent pas à se projeter dans un avenir où serait compatible le fait d'élever finalement un enfant qui est biologiquement le sien, mais qu'on n'a pas jusque-là élevé, et de l'autre côté, continuer d'élever l'enfant qu'on a élevé jusque-là, mais qui n'est pas biologiquement le sien.
La mère est un peu plus proche de l'enfant.
Oui.
Qu'est-ce que tu as pensé des critiques de manichéisme un peu qu'on lui a adressé justement au niveau du côté social très tranché, d'un côté une famille comme ça, l'autre côté une autre famille, dont
si
ils montrent qu'ils arrivent quand même à être heureux même s'ils ont moins d'argent.
Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté...
Il y a un côté plus joie de vivre, alors que de l'autre côté c'est vraiment le père. Mais en plus, le père est architecte en l'occurrence, et au Japon c'est une profession très... difficile quoi,
il
travaille beaucoup, donc c'est très réaliste.
Il travaille beaucoup.
Ouais.
Après, je crois que la mère ne travaille pas. La femme ne travaille pas ou elle...
Non, c'est possible.
Mais après, enfin oui, c'est vrai que c'est un peu manichéen. On a l'impression que voilà, ils sont pauvres mais ils sont gentils, et ils sont riches mais ils sont méchants, et ça prête le flanc en plus à la théorie de la sage-femme qui a dit ils ont besoin d'être punis pour qu'on leur rappelle que la vie c'est pas simple, et tout ça parce qu'ils seraient riches. En même temps, c'est quand même ambigu, cette famille socialement un peu défavorisée. On la voit moins malgré tout, et on voit moins leur point de vue. Personnellement, je trouve ça effectivement un peu étrange quand, par exemple, le père prend le bain avec les enfants. où ils ont 6 ans tout de même. Ils prennent le bain ensemble, ils dorment ensemble. Il y a un côté pratiquement hippie, si je peux utiliser le mot, qui, moi, parfois, m'a... Enfin, choquée, non, mais m'a un petit peu gênée. Oui, bon, certes, je ferais pas comme ça, mais je... Enfin, je trouvais ça un peu ambigu. De la même manière, il s'énerve sur le fait que le père d'en face veuille acheter, finalement, leur enfant. Mais ils sont les premiers à dire on a le droit à des dommages et intérêts financiers. Comment...
Oui, mais ça, c'est quand même du côté...
Non, mais on voit qu'il y a tout un raisonnement sur comment, effectivement, pas simplement avoir une compensation, une réparation, mais gagner de l'argent là-dedans,
cette situation.
En fait. Il m'a semblé.
Ok. Enfin, en tout cas, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi.
Oui,
donc,
moi aussi.
On peut vous le conseiller quand même. Alors, donc, on peut enchaîner avec 12 Years a Slave, qui est un film assez différent. Pas du même pays non plus, puisque c'est un film d'un réalisateur anglais, Steve McQueen, qui a déjà fait deux longs métrages au cinéma, après avoir été d'abord vidéaste. Et donc, nous sommes allés voir au cinéma, là, il y a peu de temps. Tamara, tu n'as pas trop aimé, alors qu'avec Ferdinand, on a trouvé ça quand même que c'était un bon film.
Oui. Est-ce qu'on commence par rappeler en deux mots une histoire qui est basée sur un livre qu'a déterré, en fait, si j'ai bien compris, la femme du réalisateur, qui est historienne. Et donc, le livre s'appelle 12 Years a Slave, qui a été écrit par quelqu'un qui, justement, a été au 19e siècle.
Oui, c'est ça, c'est quelques années avant la guerre de sécession.
C'est ça.
Sur le monde Northup, donc.
Qui est né libre, en fait, dans la partie nord des États-Unis, qui a grandi là-bas, qui a fondé une famille parfaitement respectée, un citoyen comme tous les autres.
Qui a même eu un certain succès social, quand même, parce qu'on voit qu'ils sont plutôt aisés.
Oui, c'est ça.
C'est un violoniste talentueux.
Voilà, tombe sur des marchands d'hommes, en fait, qui un soir l'enivrent et le vendent, en fait, aux États du Sud, où il va devenir esclave pendant 12 ans, avant d'arriver finalement à se libérer. Et donc, nous, on le suit pendant cette période-là de son esclavage. Donc là, dans un premier temps de la chance, il tombe sur un maître relativement humain. Et ensuite, dans la deuxième partie du film, qui est plus longue, il tombe sur...
On voit un second maître qui est beaucoup plus dur.
C'est ça, un second maître colérique, complètement insupportable, cruel,
un peu fou,
sadique,
même.
Un peu fou, oui. La deuxième partie du film avant la libération finale.
Et voilà. Dans les faits, on en discutait un peu avant l'émission, en l'occurrence, il est effectivement passé par les mains de plusieurs maîtres esclavagistes différents. Et finalement, il a passé 2 ans avec plusieurs maîtres différents, dont l'un qui était quand même, sa vie n'était pas, disons, trop horrible dans les conditions en question. Ça, c'est devenu bien pire après, quand il est resté pendant 10 ans, donc quand même vraiment la majeure partie de sa période d'esclave, avec cet homme qui était réputé très dur.
Mais surtout qui bat énormément les esclaves, en fait. C'est la violence qui...
Oui, et puis c'est même pas seulement une violence physique, mais c'est quand même une violence très psychologique aussi.
On est dans l'insécurité permanente, en fait, de ce maître qui peut exploser à tout moment,
sans justification,
qui se cherche, en fait, des prétextes aussi pour décharger, sa colère.
Et puis c'est pas non plus le maître distant avec ses esclaves, il a quand même des rapports avec eux qui sont assez quotidiens, qui recherchent même parfois, et qui sont toujours assez agressifs, quand il est... Bon, par exemple, toutes les scènes où il les fait venir à l'intérieur de sa maison pour les faire danser avec Solomon Northup, qui joue du violon, justement. Ça, c'est quand même très agressif aussi comme comportement, même si, il a cette perversité un peu d'être parfois affable avec eux, et en même temps de toujours leur demander... de les mettre dans des situations pour eux très pénibles.
Oui, ça arrive à son, à son aspect le plus extrême avec cette esclave femme, en fait, avec laquelle il a une relation. Et donc, il y a tantôt...
une relation à sens unique, puisqu'il abuse d'elle.
Bien sûr, une relation à sens unique, il la viole. Oui. Et à d'autres moments, c'est la culpabilité ou le sens de l'ordre, entre guillemets, incarné par sa femme qui reprend le dessus, et donc là où il va décharger sur elle son sentiment de culpabilité, en fait, en la battant. Une scène qui est peut-être la scène la plus insupportable du film, où elle est attachée à un poteau et donc elle est fouettée presque à mort.
Surtout il la fait fouetter par un des autres esclaves qui l'oblige, en fait, à la fouetter en le menaçant de sinon tuer tous les autres esclaves qui sont autour à ce moment-là. Donc, violence aussi psychologique pour celui qui doit la fouetter.
Oui, c'est ça. C'est un film aussi sur la je dirais les structures psychiques, quoi, qui permettent, je pense, ce genre de conditions absolument horribles, sur les structures sociales aussi, quoi, qui
permettent avec le personnage principal qui change comme ça radicalement d'un milieu à un autre, qui passe d'un milieu à un autre et qui doit se réadapter à ce nouveau milieu qui a des règles tout à fait différentes, dans laquelle évidemment il a une place qui n'a rien à voir avec son ancien statut social, tout son effort psychologique pour arriver à survivre.
Oui.
C'est une question qui est quand même très importante dans le film. Au début, on a même un peu cette dualité entre un de ses compagnons d'infortune qui, lui, décide de se rebeller, mais d'une manière totalement désespérée et pas très réfléchie, peut-être.
Oui, c'est ça.
Qui meurt, donc. Alors que l'autre, au contraire, dit « Vous êtes fous, on va pas se rebeller tous les trois contre tout l'équipage du navire qui les emmène dans les États du Sud. Moi, il faut que je survive, c'est ça mon objectif. »
C'est ça, c'est un peu le mot d'ordre. Enfin, dans les dialogues, c'est très présent. Pour le personnage principal, il y a cette opposition entre survivre et vivre, parce que lui, il aspire à vivre, c'est-à-dire à être libre, ce qu'il a connu auparavant et la situation qu'il veut retrouver, et survivre qui est en fait s'adapter à ses conditions, s'en accommoder d'une certaine façon pour continuer à exister physiquement, mais sans pouvoir s'affirmer en tant qu'individu. Et puis en fait, c'est un des seuls personnages parmi les esclaves à en tout cas verbaliser cette opposition avec l'autre esclave femme, qui est un peu le deuxième personnage principal parmi les esclaves, et qui du coup subissent encore davantage la violence des maîtres, puisque par rapport aux autres esclaves qui sont un peu effacés, qui deviennent des ombres, ils sont sans cesse en train de revendiquer aussi leur droit à vivre.
Il y a quand même ce premier personnage aussi, femme esclave, qu'on voit au début du film, qui après disparaît, avec lequel il a cette relation où justement on les voit en fait dans la maison, dans leur petite maison d'esclaves à côté de la grande maison principale, après leur journée de travail, etc., en train de discuter, et les autres esclaves sont vraiment dans l'arrière-plan de la caméra, tout ça, ils discutent avec elle. Mais bon, elle, c'est le cas où finalement elle n'arrive pas vraiment à survivre puisque ses enfants lui ont été arrachés et elle se noie véritablement dans son chagrin de manière vraiment, en plus c'est avec le premier maître qui est quand même plus tolérant, mais comme elle est tout le temps en train de pleurer, ses sermons en permanence, ils finissent par...
Mais via ses pleurs, en fait, elle manifeste aussi son désaccord et le fait qu'elle s'accommode pas de la situation s'inscrit un peu dans cette...
Oui, elle le manifeste, mais en même temps elle a une discussion que j'ai trouvée assez intéressante avec lui à un moment donné, quand elle lui dit qu'elle a le droit de manifester son chagrin, au moins que même si elle ne peut rien faire et que lui, elle ne lui reproche pas spécialement d'essayer de s'adapter mieux, de s'adapter davantage qu'elle pour survivre, mais que c'est son choix, elle, de ne pas accepter de se fondre dans la masse, justement.
Qui finalement
continuer
la dessert, hein, puisqu'on la voit à un moment donné, elle est enlevée, quoi.
Elle est revendue,
on veut plus d'elle.
Ils s'en débarrassent.
On se doute
qu'elle est gênante.
De toute façon, elle est gênante, et donc voilà, comme un objet qu'on peut pas utiliser, elle est elle va vers un destin qui n'est certainement pas positif, quoi.
Oui. Mais enfin, là, pour le coup, on a l'impression que c'est quand même un choix. Disons, peut-être qu'elle ne s'est pas totalement aperçue des conséquences de ses pleurs continuelles, etc. Mais c'est comme celui qui meurt dans la barque. Ça relève quand même aussi d'un choix individuel. À partir de là, Solomon, lui, il espère toujours quand même. C'est ça son espoir qui l'aide à survivre. Outre le fait qu'il y ait cet aspect où il doit, comme il est assez intelligent, il doit essayer de trouver la meilleure manière de s'adapter dans ce monde. Ça l'occupe quand même d'une certaine manière. Ça l'empêche peut-être de désespérer totalement, mais il y a aussi cet espoir toujours de retourner dans sa famille. Voilà, il demande à plusieurs reprises à quelqu'un de l'aider. La première fois, ça marche pas, mais finalement, il arrive quand même grâce à Brad Pitt, faut quand même le souligner, qui joue un Canadien,
qui est producteur du film et qui se donne le beau rôle.
Oui, enfin bon, il a quand même permis au film d'exister apparemment, donc on peut au moins lui accorder ça. Mais c'est vrai qu'il se donne le beau rôle, et finalement, c'est grâce à son personnage qu'il arrive à faire un signe à sa famille, rester là-bas pour qu'ils viennent le chercher. Mais d'ailleurs, il y a peut-être juste un point de détail, moi, que j'ai trouvé un peu intriguant, disons, dans les choix du réalisateur. C'est que les acteurs qu'il a choisis pour interpréter soit les deux maîtres, donc qui sont censés être des Américains venant du sud des États-Unis, où c'est quand même une culture très particulière, un accent, une manière de parler très particulière aussi. L'un d'eux est anglais et l'autre est irlandais, quand même. Et Brad Pitt, américain, qui joue donc ce personnage canadien. Et c'est pas tellement que ça m'a gênée, parce que de toute façon, je suis pas vraiment capable de faire vraiment la différence entre les vrais accents du Sud. Et là, ils ont quand même imité très bien, je pense. Mais je trouve que c'est un peu étrange de pas avoir essayé de trouver un acteur quand même natif, dont ce soit la culture, pour les incarner. Parce que finalement, c'est quand même une question qu'on se pose, qui est un peu parasite, je trouve, de se demander, voilà, est-ce qu'il fait bien l'accent du Sud.
Ouais. Moi, en fait, ça s'inscrit totalement à une des réserves que j'ai vis-à-vis du film, qui est que d'un côté, le film recherche vraiment un réalisme, une esthétique réaliste poussée jusqu'à une certaine extrême, avec les scènes justement où les esclaves se font fouetter, qui sont on voit les corps,
il y a un réalisme des corps, c'est un peu sa marque de fabrique.
Et d'un autre côté, ce que tu dis, donc là, le choix peu réaliste des acteurs pour incarner les personnages. Et là où ça m'a vraiment gênée, moi, c'était dans le traitement du temps qui s'écoule dans le film, parce que le film s'appelle quand même 12 Years a Slave, donc il est censé être esclave pendant 12 ans, et je trouvais qu'on s'en rendait pas compte, qu'on avait j'ai l'impression que c'était quelques années, peut-être 3-4, mais on voit quelques saisons qui s'écoulent effectivement dans les champs où ils récoltent le coton,
l'année où il y a des mauvaises récoltes.
Les plaies, les cicatrices, enfin les plaies qui se referment, les plaies physiques. Mais,
qui apparaissent aussi, des nouvelles cicatrices.
Mais les personnages ne semblent pas vieillir, enfin pas très peu, en tout cas physiquement. Et voilà, et du coup là je trouvais qu'à un moment donné le réalisme ne fonctionnait plus et ça m'a un peu gênée.
Ouais, moi ça m'a pas tellement marqué parce que finalement il y a quand même ce côté aussi parenthèse qui fait que c'est tout un univers très, comment dire, homogène dans lequel il se retrouve comme ça pendant 12 ans, une parenthèse de sa vie dans laquelle on rentre et dans laquelle on sort ensuite. Mais qui finalement n'est peut-être pas
par ce cadre en fait où il retrouve sa famille à la fin, voilà, sa fille qui s'est mariée, il est devenu grand-père, son épouse à lui, voilà, elle a aussi vieilli, on la reconnaît presque plus, enfin là vraiment on a l'impression, enfin on ressent en tant que spectateur cette idée de tout le temps, je trouve, justement,
qui s'est écoulé.
Ce côté improbable à la fin, c'est comme un miracle, quoi. Le type qui arrive, qui dit qu'il identifie, qui le libère, etc. Ouais. Là, on avait vraiment l'impression que, voilà, ce dont on pensait que ça n'allait jamais arriver, finalement, après.
Enfin, il n'y avait pas quand même un suspense incroyable, parce qu'on sait que ça dure que 12 ans.
Bien sûr, mais enfin, on sent quand même ce côté, c'était improbable et ça finit quand même par arriver.
Oui, et puis peut-être cette idée aussi de ne pas avoir un marquage du temps très, comment dire, prononcé. C'est peut-être aussi une façon de montrer que pour lui, tant qu'il est encore dans ce système, ça n'a pas de fin a priori, donc ça peut s'étendre à l'infini comme ça. Il n'y a pas vraiment de limite temporelle.
Peut-être, mais je trouvais que c'était peut-être plus technique alors la façon dont c'était fait, parce qu'il y a quand même énormément de recours à des ellipses. Oui. Le film est très morcelé, mais d'une façon qui, à mon sens, ne fonctionnait qu'en partie.
Non, mais je comprends que ça ait pu te gêner. Enfin, en tout cas, pour l'histoire des acteurs, je pense que c'est quand même une considération pratique plutôt qu'esthétique. C'est-à-dire que Fassbender, il a travaillé avec lui pendant.
Oui, c'est un peu son acteur fétiche.
Deux derniers films, voilà, donc c'est son acteur fétiche.
Un dernier point auquel j'ai été. C'est pas un dernier, je sais pas, mais un autre point auquel j'ai été sensible, c'est aussi un film sur la religion. J'ai trouvé ça intéressant, avec, enfin ça fonctionne à deux sens, c'est-à-dire que la religion c'est un instrument qui permet aux maîtres en fait de légitimer à leurs propres yeux et face aux esclaves en fait cette répression qu'ils exercent, hein, avec leur lecture biblique tous les dimanches, ou quand on leur explique c'est Dieu qui m'a mis le fouet dans la main et qui me donne l'autorisation en fait de vous frapper.
Oui, disons qu'ils se servent vraiment de la religion comme une légitimisation,
exactement, une instrumentalisation
de l'ordre dans leur société,
comme,
quoi,
comme instrument de pouvoir. Et de l'autre côté, c'est la religion qui permet en fait aux esclaves de donner sens à ce qu'ils vivent et espoir à ce qu'ils vivent au quotidien. Ils chantent leur chant dans les champs. la scène de l'enterrement, hein, qui est assez touchante.
Puis même une fois qu'ils sont devant la maison, je crois, et qu'ils se mettent à chanter tous en groupe, c'est une scène très forte, parce qu'on voit que justement au début Solomon Northup ne se joint pas tellement à eux, puis finalement avec beaucoup d'émotions il se laisse emporter par la douleur qui est exprimée dans ce chant un peu d'esclave.
C'est une conviction qu'il va y avoir une justice qui va être faite à un moment donné, c'est-à-dire les méchants vont aller en enfer, en fait.
Le thème de la justice, moi je trouve ça très intéressant, et j'étais insatisfaite en fait à la fin, parce que on apprend une fois que le film se termine en fait que il a perdu tous ses procès.
Il a identifié en fait ceux qui l'avaient
enlevé, et puis contre les gens qui travaillaient dans les plantations. Et du coup là j'étais un peu insatisfaite, parce que je trouvais que ce thème de l'absence de réparation vis-à-vis des victimes était traité ben, qu'en partie. Mais alors, bah, peut-être que c'est la volonté aussi de Steve McQueen s'adressant aux États-Unis pour leur rappeler ce chapitre de leur histoire, avec un côté très accusateur quand même, là, le regard caméra de la victime principale.
Et puis même lui, finalement, il est pas très, voilà, il se rebelle pas d'une manière frontale, puisque finalement au début, il choisit quand même d'arriver à survivre, etc. Ouais. Mais il a quand même des moments où il se rebelle à nouveau parce qu'il en peut plus.
Une fois, il se rebelle au début. Il est presque pendu. Ouais. Et là, d'une certaine manière, il apprend sa leçon.
Oui, mais même aussi la scène où l'esclave, l'esclave femme se fait fouetter à nouveau.
Oui.
Patsy.
Oui.
À la fin, il dit quand même au maître un peu fou que voilà, je sais plus ce qu'il lui dit exactement.
Qu'un jour, il devra répondre de ses actes,
que c'est un péché. Ouais. Il lui dit que c'est un péché et l'autre lui dit non, un péché, pas du tout. Enfin bon.
Oui, non, par rapport à ce que tu disais, Tamara, sur la question de la justice qui doit être faite, voilà, la question de l'égalité, quoi, de l'égalité raciale, c'est quand même une question qui a été posée par plusieurs films, enfin, je pense à trois films, surtout qu'on a vu en 2013, si je ne m'abuse. C'était le Tarantino Django Unchained, c'était le dans Lincoln aussi, hein, de Spielberg, il y avait en arrière-plan, enfin, la guerre de sécession.
Oui, c'est apparemment, c'est une question qui est retravaille en ce moment particulièrement.
Oui, c'est ça. Et puis, je pensais aussi à Le Majordome, hein, le film le Majordome, où on a aussi la question de la position des Noirs dans la société américaine. Bon, c'est quelque chose qui est en lien sans doute avec la présidence.
Il y a un autre film aussi, comment il s'appelait, La couleur de la peau. Sur des femmes.
La couleur des sentiments.
La couleur des sentiments, Oui, donc il y a cet autre film, La couleur des sentiments aussi, qui traite un peu du même sujet. Fois-ci, dans une société où l'esclavage n'est plus une réalité juridique, disons, mais par contre, existe toujours quand même d'une certaine manière dans les rapports sociaux. Cette question est toujours présente, quoi. Mais en tout cas, oui, peut-être, Tamara, toi, tu nous disais qu'aussi, tu n'avais pas trouvé que c'était forcément quelque chose qui renouvelait tellement cette question.
Oui, non, en fait, ce que je trouvais, puisque tu viens de citer d'autres films qui traitent de la même problématique un peu, enfin, du même chapitre de l'histoire, c'est que ici c'est fait de façon très conventionnelle, enfin c'est filmé de manière conventionnelle, hollywoodienne, donc peut-être plus comme le Lincoln de Spielberg.
Peut-être plus sobre quand même que Hollywood parfois.
Personnellement, Tarantino, parce qu'il y avait cette espèce de fougue ou de
hargne
qui permet aux scènes de se déployer aussi.
En sortant de 12 Years a Slave, au fond on a envie de voir Django Unchained pour voir enfin la revanche en fait.
Mais c'est vrai que je trouve que c'est
qu'on a beaucoup chez Tarantino,
c'est peut-être une comparaison qui vient naturellement, mais c'est quand même assez dur de les comparer, ces deux films, parce que ils sont tellement différents dans leur esthétique et dans leur
mais c'est juste que je m'attendais pas de la part de Steve McQueen à quelque chose d'aussi conventionnel.
Bah c'est vrai que ne serait-ce que le côté très réaliste comme ça, c'est quand même quelque chose qui est assez caractéristique de ses autres films, mais peut-être ici c'est moins inventif que dans ses précédents films. Parce qu'il y a quelques scènes, une scène où on voit la roue du bateau qui tourne de manière très, voilà, très frappante, et puis même l'eau, ça j'ai trouvé que c'était quand même une belle représentation de la manière dont le bateau s'éloigne, et peut-être quelque chose qui change radicalement dans leur vie, passe d'un endroit à un autre. Ça c'était quand même vraiment très inventif. Enfin, j'ai trouvé ça très bien, pas juste l'idée de la traîner dans l'eau du bateau, qui est quand même quelque chose d'assez commun, mais je sais pas, la manière dont il le filme vraiment de manière très physique, ça c'est quand même quelque chose qui était réussi. Et puis aussi l'encre, quand il essaye de fabriquer de l'encre et qu'on voit dans son assiette qu'il regarde le jus des fruits qu'il est en train de manger, avec une lumière qui est très belle, tu vois.
Oui, je suis d'accord sur les éclairages.
C'est des petits points dans le film qui sont pas forcément disons étendu à l'ensemble peut-être de sa vision sur le film. Enfin, en tout cas, c'est quand même beaucoup moins présent que dans Hunger en particulier, donc qui était son premier film. Mais enfin, quand même, c'est une certaine expérience à voir. C'est pas inintéressant, je trouve, d'aller voir ce film, même si l'esclavage est un thème dont on a déjà beaucoup peut-être vu des représentations et on a pu beaucoup parler, même nous, par exemple, au lycée, quand on fait de la civilisation anglo-américaine, c'est quand même...
Oui, mais enfin, il y a rarement des choses sous cet angle-là de la déchéance, en fait, de quelqu'un qui est comme nous, quoi, comme le spectateur.
C'est une histoire qui est quand même...
qui s'écrit, qui est intérêt dans la société. Il y a un potentiel d'identification aussi, quand même, de la part du spectateur, qui
d'ailleurs,
est très fort.
Je crois qu'après ça, ils ont décidé à présent d'inclure ce livre dans les programmes scolaires américains. Il y a tout un mouvement aux États-Unis en ce moment, apparemment, pour qu'on redécouvre cet auteur qui, dont le regard est peut-être quand même aussi très intéressant. Enfin, faudrait lire le livre. Donc, on va peut-être conclure cette fois-ci par quelques petites recommandations. Tamara, je te laisse commencer.
En ce moment, à l'Institut Lumière a lieu une rétrospective Jean-Pierre Melville, donc que j'aimerais recommander, et qui dure jusqu'au 28 février. Donc, c'est l'occasion de revoir, par exemple, sa très très belle adaptation du Silence de la mer de Vercors, très poétique, et qui était son premier film. Qui est aussi assez, enfin très personnel puisque marqué par sa propre expérience de la résistance et ben par ça peut-être ses films plus connus puisque enfin c'est un réalisateur qui a renouvelé le genre policier et donc là c'est l'occasion de voir ses films notamment avec son acteur fétiche Alain Delon, je pense au Samouraï notamment. Ou alors les films avec Jean-Paul Belmondo, Le Doulos et Léo Marin, Prêtre, avec aussi Emmanuel Riva. Donc voilà, quelques classiques et des films à redécouvrir.
Peut-être une autre recommandation aussi, puisque c'est un film dont on va parler dans notre prochaine émission. Le dernier film de Miyazaki, pour les amateurs, qui vient de sortir là il y a une semaine et quelques, et que moi j'ai très envie de... Enfin, a priori, c'est son dernier film, on ne sait pas avec lui si...
Il a déjà... Enfin, là, il a quand même annoncé.
Oui, mais enfin, il l'a déjà annoncé plusieurs fois.
Oui, mais il a quand même 73 ans et vu le temps que ça lui prend de faire un film.
Oui, bien sûr. Enfin, bon, on verra si. Moi, j'espère qu'il se consacrera à sa retraite.
Il a dit ouvertement que, voilà, il aimerait bien terminer sur un film qu'il a réussi à conclure.
Ouais. Enfin, bon, voilà, du coup. Donc, oui, on parlera de ce film dans le prochain numéro et puis d'autres films qui sont sortis récemment. Voilà. À bientôt.
This is why you called me here. Need a sounding board. Not 100% sure of yourself. Been doubting yourself, maybe.
Aye. Well, I'm a human.
And I've made it clear for you then.
Man of guidance, Dawn. Business of the soul.